France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
La cuisinière des Kennedy.
Les hommes sont plus passionnants que les mythes.
Jackie, elle, adore la France depuis très longtemps. Dans une ambassade, elle essaie même de débaucher le chef des cuisines parce qu'il est français.
This is a cheese soufflé. You always use Gruyère or Emmental Swiss cheese.
C'est délicieux, delicious.
Une drômoise au destin fabuleux. Comment cette petite fille, partie de rien, deviendra-t-elle une cuisinière hors pair que les grandes familles françaises vont s'arracher? Comment finira-t-elle par traverser l'Atlantique pour régaler les Kennedy?
Pas sûr d'être à la hauteur, vous voyez.
Le président pense le contraire.
Et puis Kennedy, c'est tout un monde, c'est la puissance, c'est l'argent, c'est la tragédie, c'est le destin, c'est la politique.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Comment une enfant née et abandonnée à Marseille en 1907 est devenue, dans les années 50, la cuisinière des Kennedy, l'une des familles les plus célèbres et les plus influentes des États-Unis. C'est cette extraordinaire ascension sociale doublée d'une épopée culinaire qu'on va vous raconter aujourd'hui avec nos deux invités. Valérie Pathureau, bonjour.
Bonjour.
C'est l'histoire vraie d'André Lefroy, devenu André Imbert après son mariage, qui a inspiré votre roman « La cuisinière des Kennedy », un récit qui a rencontré, c'est le moins que l'on puisse dire, un vif succès public. Je crois qu'on est à plus de 100 000 exemplaires, hein, c'est ça?
Oui, je crois.
Plus de 100 000 exemplaires vendus depuis sa parution en 2024. Et l'édition poche est sortie il y a quelques mois chez Pocket. Hein.
Tout à fait.
Kathleen Clarity, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît bien dans cette émission, Kathleen. Vous êtes née à Chicago, mais vous êtes installée en France depuis 1986, chef diplômé de l'école Ferrandi, vous êtes formatrice, vous avez signé de très nombreux livres de cuisine, dont ce tout dernier opus, évidemment, qui a attisé notre curiosité, La cuisinière des Kennedy, le carnet de recettes. C'est un peu le livre de recettes inspiré du roman de Valérie Pathureau. Vous allez nous raconter cette aventure éditoriale. Et c'est aux éditions Solar. Présidence américaine et cuisine française, les deux ont souvent fait bon ménage. C'est peut-être ce que l'on va voir avec notre historien maison, Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour. Oui, une histoire longue qui court depuis les pères fondateurs. Il y a beaucoup à dire, je vais essayer d'être synthétique. Hein.
On va essayer. Avec nous également notre chroniqueuse vin, Justine Knapp. Bonjour Justine.
Bonjour. Un vin aujourd'hui qu'on peut boire la bouche grasse pour sa grâce.
Ah, très bien. Ça fait envie. Pour réagir et poser vos questions, envoyez-nous un email à onvadéguster@radiofrance.com. Le podcast On va déguster est disponible sur l'appli de Radio France. Et retrouvez tous nos contenus, adresses, infos pratiques, les très belles recettes entre France et États-Unis de Kathleen Clarity sur radiofrance.fr à la page On va déguster.
France Inter. François-Régis Gaudry, on va déguster.
Mais juste avant de vous raconter de cuisiner le fabuleux destin de la cuisinière des Kennedy, je vous sers sur un plateau une boisson surprise à vous d'essayer de trouver ce que cela vous évoque. Qui pourrait d'abord me la décrire visuellement? Allez, Valérie Pathureau.
Un rouge grenadine.
Est-ce de la grenadine?
Un souvenir d'enfance. Chez ma grand-mère, on buvait du champagne rose. C'était de la grenadine avec de la limonade.
Ah, très bien. Alors là, ça pétille pas. Je vous annonce tout de suite que c'est une infusion avec effectivement cette couleur. Alors, totalement naturelle, hein, mais une couleur assez troublante, presque rose fluo, Justine Knapp.
Effectivement, couleur bien flashy, plutôt sur l'acidité en bouche, rafraîchissant, bien aromatique.
Kathleen, vous aimez ou pas?
Alors, les couleurs nous trompent un peu parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. Mais en fait, c'est un goût de thé, c'est un goût de thé glacé.
C'est un goût de thé glacé. Alors, exactement. Il s'agit bien d'une infusion bien froide, bien glacée. Est-ce que quelqu'un saurait me dire vers quel produit infusé on pourrait s'orienter?
Hibiscus.
Oui, voilà, l'hibiscus.
Ah, alors c'est marrant parce que les artisans qui ont créé cette boisson naturelle, effectivement, me disent qu'on leur parle tout le temps d'hibiscus. Il y a évidemment les notes acidulées de l'hibiscus, presque des notes florales, très intéressantes. Ça pourrait faire penser au bissap, en effet, cette infusion africaine, où il y a aussi le carcadet, en Égypte, qui est la même infusion à base de fleurs d'hibiscus, mais ce n'est pas de l'hibiscus. C'est une plante aromatique. Alors, je vais vous aider un peu, parce que cette boisson s'appelle le cheese tea.
Quelle aide.
Oui, quelle aide.
Alors là, je veux dire.
Oui.
Une infusion au chiseau pourpre.
Ah, okay.
C'est la création totalement naturelle de Bénédicte Pariot et Rémi Levaste, des ingénieurs agronomes qui ont fondé en 2021 Chiseau et compagnie. Cette ferme biologique est spécialisée dans les plantes et les produits originaux, confidentiels et authentiques. C'est une ferme située tout près des Alpilles, à Érague, on est à 5 minutes de Saint-Rémy-de-Provence. Ils cultivent donc en bio, je le disais, cette fameuse plante très populaire en Corée, au Japon et en Chine, qui est le chiseau, et ça porte le nom latin de Peria frutescens. C'est une herbe très caractéristique, avec de la fraîcheur, avec des notes d'épices, et ils font plein de produits autour du chiseau, du sirop, du confit d'oignon aromatisé au chiseau. D'ailleurs, les feuilles fraîches sont très utilisées par un voisin 3 étoiles à Lousteau de Beaumanière, qui n'est autre que Glenville. Voilà. Cheese tea, vous aimez ou pas?
C'est bon. Très frais.
Très frais.
Toutes les infos sur le cheese tea à retrouver sur radiofrance.fr, à la page on va déguster, aux manettes de cette émission, Laurent Thomas, Anne-Laure Cochet, Fabrice Ribaud, la cuisinière des Kennedy. On vous raconte son histoire étonnante avec nos invités juste après The More I See You. J'adore cette chanson, Chet Baker, un titre de 1958 pour se mettre dans l'ambiance. Vous êtes bien sur France Inter.
The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try.
Destin extraordinaire d'une enfant trouvée, confiée en 1907 à l'assistance publique à Marseille, André Lefroy, qui traverse l'Atlantique au milieu des années 50 et qui devient la cuisinière privée de la famille Kennedy. Rien que ça, c'est l'aventure fascinante que vous racontez, Valérie Patureau, dans La cuisinière des Kennedy, ce roman inspiré de cette histoire vraie, aux éditions Les Escales, avec ce grand succès public, je le disais. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est la façon dont vous avez mis la main sur ce sujet en or. Incroyable. Un sujet en plus très méconnu, peu documenté. Racontez-nous comment est né ce projet.
Imaginez un dîner, il y a bientôt 3 ans, un dîner dans un joli village de la Drôme où je vis, invitée chez une amie. J'arrive un peu en retard. Les convives sont déjà en pleine conversation et j'entends au bout de la table le nom Kennedy. Donc je tends un peu l'oreille.
Forcément.
Voilà, forcément, comme tout le monde. Et j'entends des bribes de phrases. La personne qui racontait cela avait rencontré quelques années auparavant, donc avant qu'elle ne décède, cette femme qui serait passée, enfin non, le long de toute une vie, entre l'assistance publique et les Kennedy. Je trouve ça absolument incroyable. Donc à la fin du repas, bien sûr, je vais en demander un petit peu plus. Ça tombe dans mon oreille de romancière. Et puis me voilà partie avec les quelques renseignements que j'ai, mais surtout quelque chose d'exceptionnel, c'est les coordonnées de ces petits-enfants qui vivent encore dans la Drôme, tout près de chez moi. Je les appelle, mais je n'ai pas encore l'idée d'écrire un livre, hein. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Eh bien, il m'arrive quelque chose d'extraordinaire, c'est que le petit-fils, donc Alain, un des petits-fils, me confie absolument un carton. Et je me retrouve ainsi sur la table de ma cuisine avec des lettres de la famille Kennedy, des photographies de la famille Kennedy. Je trouve ça absolument incroyable et donc ça me donne une envie de repartir et de voir comment est-ce possible ? Parce qu'en fait, je n'avais que la fin de l'histoire. Et donc, comme ils me disent qu'elle a été placée à l'assistance publique à Marseille, qu'elle a été en fait trouvée, donc je suis vraiment partie à Marseille pour effectuer les premières recherches. Et là, très surprenant, mais j'ai pu acheter le dossier d'André.
Acheter,
oui, je crois que c'est une vingtaine d'euros. On peut acheter comme ça, au bout de 100 ans, un dossier. Je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, on reçoit sur son ordinateur tout le dossier, ce qui a constitué pour moi les premières pierres de mon travail, puisque j'avais, le jour de sa naissance, la personne qui l'a trouvé, la sage-femme qui a effectué les premiers soins, puis ensuite les premières familles chez qui elle a donc été confiée, puisque c'est, l'assistance publique, c'est une entité administrative, mais en fait, ce sont des familles d'accueil.
Donc ça veut dire qu'entre cette boîte à secrets absolument incroyable que vous avez épluchée, qui vous a été en quelque sorte un peu léguée, et vos propres recherches dans les archives, vous a permis d'avoir une matière qui finalement fait que votre roman ne s'éloigne pas tant que ça de l'histoire vraie de cette femme.
Bien sûr, donc alors évidemment j'ai un petit peu remballé les choses, parce que le dossier que j'ai eu est un dossier administratif, donc il est fait de dates et de noms, mais il m'était facile d'imaginer la vie d'André, puisque par exemple un lieu, la première personne qui l'a recueillie, celle qu'elle appelle Maman Sidonie, puisque c'était un tout petit bébé. Hein, elle a été placée en janvier 1908, donc un tout petit bébé. Et je peux retrouver cette maison, qui depuis est devenue bien sûr une résidence secondaire et autres, mais je peux quand même rentrer. Les gens sont adorables, ouvrent les portes, on se retrouve dans la cour d'André, où elle était petite. Donc après, l'imagination fait le reste. Mais oui, j'ai pu comme ça, en tout cas pour tout le début de sa vie et jusqu'à son mariage, tout était consigné. Absolument tout.
Et vous allez évidemment nous raconter ce destin spectaculaire qui va la mener du côté de la Drôme, dans une famille d'accueil, mais
bien
également
sûr,
à Lyon.
Plusieurs familles d'accueil.
Absolument, dans le sud de la France.
Bien sûr.
Et puis il y aura, on ne va pas tout dévoiler tout de suite, mais la traversée de l'Atlantique.
Eh oui, incroyable.
Pour aller cuisiner aux États-Unis. Kathleen, on sait en revanche comment vous vous êtes lancée dans l'aventure de ce livre, parce que vous nous racontez tout dans l'introduction de... La cuisinière des Kennedy, le carnet de recettes, qui est en quelque sorte le livre de cuisine adapté du roman aux éditions Solar. Vous avez été tout simplement contacté par l'éditeur.
Exactement. C'est fou. C'était un projet tellement différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à là, et j'ai adoré. En fait, tu vois mon exemplaire avec mes milliards de notes et de
alors
et
là,
de
on imagine effectivement l'exemplaire du roman de Valérie Patureau avec à peu près 1300
post-it,
des pages cornées. Donc vous l'avez bien étudié.
J'ai lu, relu tout le temps, et en fait, c'est magnifique. En fait, voilà.
Merci.
En fait, moi, quand je lis, j'entends André, donc c'est tellement... Je parle au mot d'André, mais en fait, c'est toi, Valérie, qui l'a écrit, donc c'est superbe, en fait. Il y a tellement de joie et de bonheur, malgré tout, c'est une époque pas super riche, enfin, une époque un peu compliquée, entre deux guerres, enfin, c'est quand même pas la meilleure des périodes. Mais elle avait toujours cette joie, et on peut dire que cette joie venait de la cuisine, c'était son endroit de refuge. Et j'ai dit, mais voilà, elle a tout compris, cet André.
Tout compris, oui, bien sûr.
Et puis, on pourrait presque considérer, Kathleen Clarity, que vous avez fait... quasiment le même chemin qu'André, mais en sens inverse.
Oui, pas tout à fait à la même époque hein, non plus. Hein.
Oui, c'est sûr.
Mais oui, exactement. Je suis arrivée en France, ça fait presque 40 ans. Donc, en effet, voilà, avec toutes les surprises qui m'attendaient ici autour de la cuisine. Enfin, donc, effectivement, je comprenais bien le ressenti d'André dans l'autre sens.
Allez, on part dans cette incroyable saga d'André le froid. Le patronyme n'est pas complètement un hasard.
Ah non, pas du tout. C'est vraiment une personne de l'administration de l'hôpital de la Charité où elle a été recueillie qui lui a donné ce nom, comme on donnait aux enfants abandonnés. On essayait de nominaliser un peu les choses. Et on était en janvier 1908 à Marseille. Je me suis renseignée, il neigeait.
Ah.
Il y faisait très froid. On l'a appelé le froid.
L-E-U-F-R-O-Y. Alors, elle est effectivement
ne saura jamais son véritable nom.
Bien sûr, elle sera confiée à l'assistance publique. Elle portera un autre patronyme parce qu'il y aura un mariage
bien
entre temps.
Bien sûr,
elle s'appellera André Imbert. Et c'est sous le nom d'André Imbert qu'elle sera connue comme la cuisinière de Kennedy d'ailleurs. De Marseille, on va faire un bond jusqu'à la Drôme où elle arrive dans une famille d'accueil, un couple de fermiers. Et là, ce sont, pourrait-on dire, les premiers pas culinaires.
Je pense qu'elle va vite comprendre que par la nourriture, passe beaucoup de choses et aussi un certain pouvoir, une certaine force. Comme elle a une joie de vivre absolument incroyable, ça va aussi se transmettre comme ça.
Cuisine frugale, cuisine paysanne,
bien
on pourrait même parler de cuisine pauvre.
Tout à fait, on fait avec ce que l'on a. Alors on est quand même dans une région du nord de la Provence, donc il y a beaucoup d'aromates, il y a beaucoup d'herbes. Mais enfin, on mange ce que l'on chasse, le lapin.
Avec une quasi-autosuffisance alimentaire en fait.
Tout à fait, on fabrique son fromage, le picodon entre autres.
Civet de lièvre, donc le produit de la chasse.
Voilà.
Également les ressources qui sont glanées à droite à gauche,
bien
les cueillettes
fruits,
sauvages.
Les fruits, aussi beaucoup de fruits quand même dans cette région.
Pour faire des confitures notamment.
Voilà, les confitures. Les confitures, le miel, voilà, toutes ces choses-là qui sont très simples.
La pâte de coin.
La pâte de coin, bien sûr.
Et il y a évidemment au cœur de ce livre une recette paysanne. Et Lille, la fermière qui accueille André chez elle, la cuisine. Le soir, c'est de la cuisine pauvre par excellence. Est-ce que vous voudriez bien nous lire un court passage de votre roman ?
Avec plaisir.
Valérie Patureau.
Le dimanche soir, vient le temps des matefins. De grosses crêpes épaisses dans lesquelles Lille ajoute tout ce qui lui tombe sous la main. Des de lard rôti, restes de picodon, talons de jambon. De quoi satisfaire les robustes appétits et favoriser le sommeil des ouvriers revenus de leur village et de leur unique journée de repos pour une nouvelle semaine.
Comment faire un petit festin avec trois fois rien ? Alors, Loïc, je me tourne vers vous, mais c'est vrai que cette tradition de crêpes épaisses comme ça, on la trouve finalement dans des campagnes françaises différentes, mais c'était vraiment la cuisine de rien, la cuisine de peu, avec les restes que l'on piochait dans l'office.
Dire, c'est une façon d'utiliser les céréales, les crêpes. On peut faire des bouillies, on peut faire du pain, on peut faire des crêpes. Et des matefins, on en trouve dans d'autres régions, dans le Berry, par exemple. On parle de matefins aussi. Donc, en effet, c'est vraiment là, on est dans de la cuisine simple et paysanne, clairement.
Mais avec Kathleen Clarity, ça devient carrément un plat qui fait franchement envie. À la page 18 de votre livre de recettes, Kathleen, il y a ces matefins du dimanche soir. Imaginez quand même une grosse crêpe épaisse, légèrement dorée, au bord un peu boursouflé, dans une poêle. Eh bien, ces matefins ont atterri sous nos micros. À vos fourchettes. Allez, Justine, petit commentaire de dégustation.
Fourchette ou main,
Délicieux.
C'est bon.
Le mode de cuisson est assez rigolo. C'est pas comme une crêpe traditionnelle, c'est-à-dire on le fait juste dorer un petit peu à la poêle et ensuite on termine au four. Mais un four très chaud, à 250 degrés. Ce qui fait qu'il va gonfler. Les œufs à l'intérieur vont gonfler. Il y a 4 œufs quand même, donc c'est assez riche. Et gonfle.
J'adore.
Un peu soufflé, quoi.
On est entre la crêpe et l'omelette aussi, finalement.
Oui, un petit peu.
On est un peu entre les deux parce qu'il y a 150 g de farine, 4 œufs, 20 centilitres de lait. Et puis ensuite, alors, on condimente, on customise, comme on dit, on assaisonne un peu comme on veut, avec ce qui est dit dans le roman, un talon de jambon, des restes de picodon. Là, vous n'avez pas trouvé de picodon, mais c'est un autre fromage de chèvre et ça marche très bien.
Exactement, un fromage de chèvre et des deux sèvres. Donc, en fait, il faut un fromage de chèvre un peu sec, quand même, qu'on puisse ou râper ou au moins un peu émietter dessus. J'en ai mis pendant la cuisson et ensuite cru sur le dessus. Il y a des petits morceaux de jambon, de bacon plutôt. Après, elle mettait toujours, en fait, elle parlait des feuilles. Et des feuilles, ce sont des petites herbes, etc.
Bien sûr.
Qu'elle cueillait, donc c'est génial. Moi, j'ai mis de la roquette, j'ai mis du pourpier, parce qu'il y avait plein de pourpiers ce matin au marché. Donc, je me suis dit, tiens, on va mettre ça. Ça peut être des feuilles de blettes, ça peut être des épinards, ça peut être...
Donc, mais est-ce que les mères de famille n'ont pas toutes tendance un peu à faire ça le dimanche soir, quand on ne sait pas trop quoi faire, on va chercher un peu ce qui nous reste.
Ben, j'espère, hein, parce que ça veut dire qu'on cuisine.
Voilà.
C'est pas mal,
exactement.
Déjà.
Voilà.
Comment, Kathleen, vous avez sélectionné les recettes. Alors évidemment, ça passe par une lecture particulièrement attentive du roman de Valérie Patureau. Vous avez dû faire au départ, j'imagine, une liste des différentes recettes qui ont accompagné la trajectoire d'André.
Effectivement, elle parle des différents plats, mais sans jamais vraiment expliquer ce qu'elle faisait, en fait. Donc c'était à moi de creuser, essayer de comprendre. Elle donnait quelques ingrédients, effectivement, par-ci, par-là, quelques petites modes de cuisson. Franchement, il y avait des choses que je ne connaissais, mais absolument pas. Il fallait vraiment que je cherche, que je creuse. Les bachiquelles, je sais ce que c'est, mais je ne connaissais pas cette appellation-là. Mmh. Donc, une petite recherche là, les mâts de faim non plus. Enfin, je les appelais autrement. Aux États-Unis, on va appeler ça Baby Dutch.
C'est un Baby Dutch. Ah, mais oui, c'est vrai.
Voilà, mais c'est un mâts de faim. Enfin, c'est rigolo. Donc, c'était super intéressant parce qu'il fallait vraiment creuser. Je me suis servie d'un bible de la cuisinière provençale qui s'appelle Le Rouboule.
Bien sûr.
Qu'une très chère amie m'a prêté. Et ensuite, elle me l'a offert et quel régal, quoi. Bah, pareil, hein, il faut comprendre, hein, parce que là aussi, il faut savoir cuisiner un peu quand tu lis le Rouboule. Mais ça m'a bien aidé pour trouver en moi les bases de ces recettes.
En tout cas, bravo, ce mat de faim est vraiment délicieux et mat la faim. Et
oui, absolument. Mais...
C'est vraiment l'origine du
Tout à fait, ça décrit, mais j'ai envie de dire, ça ne rend pas hommage à la mythe, le nom à ce qu'on a là dans la main, parce que précisément, c'est assez léger au fond. C'est-à-dire que dire que c'est une crêpe épaisse, c'est un peu réducteur, parce qu'il y a une vraie légèreté. Quand on parlait d'omelette, un peu, il y a ce côté-là. Donc,
mais là, vous avez le mat de faim réinterprété par l'élégante
Sans doute. Attention. Sans doute, mais justement, il faut le préciser.
Absolument. Valérie Patureau, on doit avancer, évidemment. Dans le parcours de cette André, racontez-nous comment elle passe de l'univers fermier et paysan à un autre niveau culinaire qui est la cuisine bourgeoise, que là aussi elle va appréhender, apprivoiser et finir par maîtriser avec beaucoup de brio.
Alors il faut savoir qu'à partir de 14-15 ans, les enfants de l'assistance publique changent un petit peu de régime et là elle est vraiment gagée, c'est-à-dire qu'elle est payée. Donc elle va déjà dans une première famille un peu plus bourgeoise, toujours dans la même région, à Nyons. Donc c'est-à-dire une famille qui reçoit un peu des amis, qui est un petit peu la famille bourgeoise du coin, producteur d'huile d'olive. Et donc là, déjà, elle change un peu. C'est plus simplement pour les ouvriers ou pour la famille. Ça change un petit peu.
Et une cuisine plus sophistiquée.
Voilà, un peu plus sophistiquée, avec un peu plus de moyens, avec un premier réfrigérateur qui va arriver, ce qui va changer quand même beaucoup de choses. Et puis ensuite, il y a son mariage avec Léopold, qui tient un petit débit de boisson.
On est toujours près de Nyons, dans la Drôme.
On est à Ventrolles, et ce petit restaurant existe toujours. Il s'appelle toujours le Café de la Poste. Mm-hmm. Je vous invite à y aller, parce qu'on y mange très bien.
Ah bah très bien, on va y aller ensemble.
Et voilà. Et là, elle, avec son enthousiasme, elle va réussir à convaincre ce Léopold, en disant, mais on peut faire peut-être 2-3 tables. Enfin, on commence par 2-3 tables. Et comme elle fait vraiment très très bien la cuisine, ça commence à se savoir. Et les gens viennent. Et de 2-3 tables, elle commence à organiser qui le baptême, qui le mariage. Bon, la situation familiale va un peu évoluer, elle va avoir une petite fille et puis elle va malheureusement se séparer sans jamais divorcer de Léopold et partir, sa petite fille sous le bras, pour Lyon.
Ah, capitale historique de la gastronomie française. Et je ne dis pas ça parce que je suis né à Lugdunum. Mais vous confirmez quand même, Loïc, qu'à l'époque et encore aujourd'hui, mais Lyon est un carrefour incontournable en matière de bonne chère.
Clairement, il y a beaucoup de terroirs très riches, de bonnes matières premières. Même si la réputation vraiment gastronomique de Lyon s'est vraiment installée dans l'entre-deux-guerres, à partir des années 30.
C'est à partir de quand, Valérie Patureau, que André se frotte justement à l'excellence lyonnaise?
C'est à cette période-là, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, vraiment, elle va rencontrer les mères lyonnaises.
Et oui.
Voilà, et elle va trouver du travail. Donc là, elle n'est plus, ce n'est plus elle qui dirige la cuisine. Là, elle va apprendre autre chose. Elle change de catégorie, hein, ça c'est sûr.
Boudin Richelieu, caillette aux herbes.
Caillette aux herbes, oui.
Gratin de courge soleil. Rôti de griffes de la paillette.
De la paillette, oui.
Escargot Margot.
Voilà.
Autant de recettes dont on a parfois un peu oublié les intitulés.
Bien sûr.
Il faut bien le dire.
Mais j'ai trouvé ça incroyablement poétique, moi, tous ces intitulés.
Comment vous avez réussi à vous documenter, par exemple, sur cette période lyonnaise d'André?
Alors, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai acheté beaucoup de livres de cuisine. Parce que la difficulté, c'est qu'on n'avait pas exactement le carnet de recettes. Il faut être honnête, le carnet de recettes d'André. C'était surtout dans les souvenirs de ses petits-enfants que j'ai retrouvé des recettes.
Parce que cette Léa, par exemple, chez qui elle travaille, ça c'est attesté?
Ah oui, ça c'est attesté. D'accord.
Léa étant, Loïc, une grande mère lyonnaise.
Je me posais la question, je ne savais pas si c'était la mère Léa.
Oui, bien sûr, c'est la mère Léa.
J'étais pas là-dessus.
C'est la mère Léa.
D'accord.
La guerre va changer quand même beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui vont fermer, il y a un peu moins de matières premières. Et elle va, puisqu'elle a absolument besoin de travailler, hein, elle doit s'occuper de sa fille, elle va trouver du travail dans la famille Berlier. Et là aussi, on change. Grande famille lyonnaise, un peu prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, elle va aussi changer. C'est-à-dire que là, elle reprend carrément. Madame Berlier ne cuisine pas ou peu ou fait surtout de la pâtisserie. Et là, elle va prendre la cuisine de la maison en main. Là, on a des invités. Après, elle part chez les Frères Lumière. Ça,
alors
c'est
là,
incroyable.
On est sur la Côte d'Azur. Hein.
Là, on est sur la Côte d'Azur.
Mais en fait,
chaque fois que je découvrais quelque chose, je me disais, mais on ne va pas me croire. On va dire, elle en fait un peu beaucoup quand même.
Et par ailleurs, elle a fait la cuisine pour Albert Camus,
Rien que ça. Pendant un an, donc à Cabris, où il était venu soigner sa tuberculose.
Là, on est dans le Pays de Grâce, les Alpes-Maritimes.
Tout à fait.
Et puis les Gallimard.
Et les Gallimard, oui. Puisqu'ils étaient quand même évidemment les éditeurs de Camus. En fait, elle avait absolument peur de rien. Et elle allait un peu où le travail l'appelait.
Au gré des opportunités et grâce aussi à son immense talent. La période lyonnaise d'André a inspiré notre chroniqueuse vin Justine Knapp.
On va déguster sur France Inter.
Justine, vous êtes arrêtée sur le chapitre lyonnais de la vie d'André Lefroy, devenu André Imbert, chez la mère Léa à Lyon. Premier poste de cuisinière d'André dans un vrai restaurant et c'était juste avant la guerre.
C'est ce moment où, je vous lis une phrase du livre, l'huile d'olive rencontre le beurre mousseux, la pintade dromoise et ses fromages de chèvre s'inclinent devant le gras double, le canard au sang et le pichet de Beaujolais.
Deux salles, deux ambiances.
Alors justement, je me suis demandé ce que l'on servait exactement comme vin chez les mères lyonnaises. L'historien de la gastronomie lyonnaise Yves Rouèche et Catherine Simon, l'autrice de Manger, une histoire des mères lyonnaises, m'ont expliqué que les mères ont reçu des clientèles très diverses socialement au fil du temps. Donc on servait des vins plus ou moins prestigieux. Il y avait des vins de Bourgogne, du Rhône, certaines mères ouvraient des crus. Du champagne, c'était le cas chez la mère Léa. Le champagne fait même partie des ingrédients pour la sauce du gigot. On servait bien sûr les vins locaux, Coteaux du Lyonnais, Beaujolais, surtout en guise de vin de soif, hein, c'était la boisson du jour, livrée directement en tonneau et servie en pot ou en fillette, hein, 46-30 centilitres. Un vin jeune, léger, gouléant. Deuxième interrogation, je me suis demandé quelle forme prendrait ce fameux Beaujolais dans mon verre aujourd'hui, devant ces mêmes recettes des mères lyonnaises. Il garderait sa légèreté et sa gouléance, mais avec une distinction contemporaine, de la profondeur. Profondeur due entre autres à de longues macérations qui vont chercher jusqu'au fond du raisin. Un vin qu'on prend le luxe d'élever plus longtemps. C'est possible dans les deux méthodes de vinification qui sont utilisées dans le Beaujolais, en vinification traditionnelle et en macération carbonique qui est devenue emblématique de la région. La macération carbonique avec ses variantes, c'est une fermentation de grappes intactes pendant quelques jours seulement qui est réputée pour donner un fruité assez explosif. Mais on peut pousser plus loin, plus longtemps, extraire plus subtilement pour plus de détails, de finesse, de profondeur. Goûter par exemple le Chénat Vibration 2024 du domaine Tillardon. 3 semaines de macération carbonique, risquée comme le lait sur le feu, apprivoisée par 20 ans d'expérience. Un vin à 11 degrés sur la pulpe du raisin, des notes de beau végétal et de suie.
Mais c'est ce qu'on boit ou pas ?
Non, je vous ai servi.
Ah. Ah bah ça va, elle nous fait envie avec un superbe Vibration Chenaz de Tillardon.
Je vous ai servi un autre vin, même millésime 2024. Donc millésime frais, vinifié cette fois traditionnellement, vinification traditionnelle, toujours une macération longue, un mois, donc toujours profond, en plus d'être léger, clair, frais. Le domaine qui a produit ce vin est installé depuis 6 ans. Mmh. Il est assez isolé dans une combe au sommet d'une colline avec plus de forêt que de vignes. Il y a quelques vaches Highland qui donnent une viande délicieuse, un jeune verger, des gîtes. Et au milieu de la cour, 2 platanes scellés par une branche commune avec la même sève qui circule. C'est l'emblème du domaine. Domaine Clos Sauvage,
ah,
Sophie et David Devinck, ils sont tout au nord du Beaujolais, dans le village de Laine, à la frontière de la Bourgogne. Donc, ils produisent à la fois des blancs de Bourgogne, des vins purs et énergiques, et des Beaujolais rouges, des vins pudiques, comme dit le couple, rien dans l'exubérance. Et ce que vous buvez, c'est leur Saint-Amour, appellation Saint-Amour, lieu dit Lagagère, sur les hauteurs du Cru. C'est un gamay aussi délicat qu'un pétale, juteux, poudré, la peau qui craque, 22 euros, c'est le Beaujolais dans nos verres aujourd'hui.
Bravo, pudique, certes. Ce Saint-Amour, mais très expressif.
Oui, expressif en effet, moi, je trouve. C'est-à-dire que, je ne dirais pas si pudique que ça.
Il y a des tanins effectivement délicats, ouais. Et poudrés, je le trouve vraiment
poudré, ça, c'est clair,
ouais. Brillant,
ouais.
Ce vin.
Ouais.
Le Saint-Amour cuvée Cocagne 2024 de Clos Sauvage, merci pour cette découverte.
Avec plaisir.
Dans un instant, chers amis, on traverse l'Atlantique et on vous raconte l'aventure américaine de cette petite Frenchie qui va se retrouver au service de la famille Kennedy avec Valérie Paturo et Kathleen Clarity. Avez-vous reconnu ce chanteur français qui rend hommage à Rose Kennedy ?
Benjamin Biolay.
Ah, Valérie Paturo, Benjamin Biolay, un et point, oui. Le destin de cette cuisinière française qui a officié pour la famille Kennedy. On vous raconte cette histoire avec Valérie Paturo et Kathleen Clarity.
On va déguster.
Menu, please.
François-Régis Gaudry sur France Inter.
Un album de Benjamin Biolay intitulé Rose Kennedy. Je rappelle que cette émission est diffusée depuis les studios de la Maison de la Radio, dont vous me rappelez l'adresse, s'il vous plaît.
Boulevard Kennedy, Avenue Kennedy.
Avenue.
Pourquoi, à la seule évocation du patronyme Kennedy, on rêve, Kathleen Clarity. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une des clés du
bien
succès
sûr.
De votre roman,
bien
au-delà
sûr.
Évidemment de sa qualité littéraire.
En fait, la famille Kennedy, pour nous les Américains, c'est un peu notre noblesse à nous. J'ai envie de dire, c'est nos rois et reines que nous n'avons pas. Voilà. Ils sont diablement beaux. Tous très beaux. Ils ont une réussite de dingue. Ils sont très intelligents. Ils sont sportifs. Ils réussissent à peu près tout ce qu'ils font, plus ou moins, en tout cas ce qu'ils montrent. Et Rose Kennedy, la matriarche, c'est elle qui fait le plus rêver.
Avec une certaine poigne, hein.
Ah ben carrément, ah oui. Carrément.
Mais les Kennedy, évidemment, cette famille d'origine irlandaise, de confession catholique, c'est aussi certainement le symbole d'une intégration à l'américaine. Mm. C'est effectivement cette Amérique qui nous fait rêver aussi, nous autres Français, peut-être grâce à une certaine francophilie de cette famille.
Bien sûr, déjà, oui, oui, tout à fait. Les origines de Jackie, hein, qui se revendique un quart française. Mais,
et qui d'ailleurs, quoi, maîtrisait très bien le français.
Qui maîtrisait très très bien le français, qui avait fait ses études à côté de Grenoble, je crois, à Grenoble. Et puis, je pense que la période qui nous occupe pour André, c'est vraiment une France un peu tristoune de l'après-guerre, une France un peu grise, hein, tous les hommes sont en costume gris, tout est un peu triste, et tout d'un coup, on découvre les cuisines américaines, les voitures américaines, le cinéma américain.
The American way of life.
Voilà, et tout ça fait rêver. Moi, j'ai des souvenirs de petite fille, mes parents étaient mais vraiment émerveillés, c'est les unes de Paris Match, c'est... voilà, je crois qu'on...
Bon, après, Kathleen, pardon, mais c'est aussi une famille touchée par des tragédies insurmontables.
Dingue.
Justement, je crois que ça participe de la fascination. Voilà. On parle de lumière, mais il y a aussi une part d'ombre, différentes parts d'ombre et de tragédie. Et je pense que justement, ça aussi, sur la durée, cultivé, approfondi le mythe, la légende et la fascination.
Alors Valérie Patureau, comment André, cette excellente cuisinière qui pratique cette gastronomie bourgeoise, qui travaille au service de clients et de familles renommées en France, a cette opportunité de traverser l'Atlantique pour aller exercer son métier aux États-Unis?
Alors, on l'a dit tout à l'heure, elle était déjà sur la Côte d'Azur, hein, au service donc d'Albert Camus, ensuite des Gallimard. Eh bien, elle cherche du travail et elle répond certainement à des petites annonces de travail. Une riche famille américaine, puisqu'il y avait beaucoup d'Américains dans les années 50 sur la Côte d'Azur. Hein, il faut penser au Festival de Cannes, il faut penser au Grand Prix de Monaco, à tout ça. Enfin bon, ça, ils sont très, très attirés par la Côte d'Azur. Et elle trouve du travail chez Monsieur et Madame Rogers, qui sont américains et qui sont là en villégiature pour l'été. Une grande famille, elle est peintre, lui il est journaliste aux États-Unis. Et puis, elle fait ce qu'elle a toujours fait. Elle va au marché de Cannes, elle leur fait très très bien la cuisine, parce qu'ils reçoivent beaucoup en cet été-là. Et puis, à la fin de l'été, eux vont regagner les États-Unis. Tout s'est très très bien passé avec André, et ils lui disent « Mais André, mais... pourquoi ne venez-vous pas avec nous ?» Et là, il faut imaginer quand même cette petite femme, cette petite, elle est pas si jeune, hein, elle a 50 ans. Eh bien, pourquoi pas ?
Au milieu des années 50.
Exactement. Et là, elle va prendre l'avion, puisqu'il y avait des liaisons Nice.
Pareil qu'elle embarque quelques produits indispensables.
Voilà, elle envoie un petit peu d'huile d'olive quand même.
Et je crois diverses herbes aromatiques.
Voilà, et diverses herbes, parce qu'elle s'imagine que là-bas, évidemment, peut-être elles ne connaissent pas ça. Elle va être surprise, parce qu'ils connaissent quand même beaucoup de choses. Pour la première fois, là, elle s'est dit, oh là, peut-être que là, j'ai vu peut-être un peu grand. Et puis, elle est quand même accueillie par la famille Kennedy, qui sont très amies avec la famille Rogers.
C'est ça.
Les Rogers n'ont pas d'enfants, ils sont souvent invitée aux fêtes de Noël, aux fêtes de Thanksgiving, dans la famille Kennedy. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle va aller pour la première fois chez les Kennedy pour accompagner les Rogers qui sont invités. Et il y a tellement de monde, ils se disent, on vient avec notre cuisinière. Voilà, et les choses vont s'enclencher comme ça. Rose va trouver que c'était vraiment parfait et va lui proposer, puisque les Rogers n'ont pas vraiment, vraiment besoin d'une cuisinière.
Et là, André, effectivement, va travailler aux côtés du clan Kennedy, sous les ordres de Rose Kennedy, la matriarche.
Bien sûr, avec un uniforme, avec tout ce qu'il faut, oui.
Et là, alors, elle débarque vraiment dans un monde nouveau.
Ah,
un nouveau monde, j'ai presque envie de dire.
Déjà, la langue. Alors, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup français, mais dans les cuisines, par contre, où il y a d'autres employés, eux ne parlent pas forcément français. Il faut imaginer quand même qu'André, à chaque fin de phrase, elle dit peu cher, hein, donc on est loin. Voilà. Alors, évidemment, elle va continuer à faire ce qu'elle sait faire, mais elle va bien être obligée de se plier quand même aux désiderata de la famille. Elle est employée.
Alors, il y a plusieurs fiefs, hein, des Kennedy, où André officie.
Oui, elle les suit, dont évidemment le Yannisport connu.
Dans le Massachusetts, on est sur la côte Est, vous l'évoquiez à l'instant, Kathleen Clarity. Il y a aussi, par ailleurs, un lieu de villégiature qui est Palm Beach, en Floride. Et alors, ce qu'il y a d'assez surprenant, c'est qu'elle débarque effectivement dans un monde assez nouveau, avec des anecdotes tout à fait truculentes. Le fait, par exemple, que architecturalement, la cuisine, la pièce où l'on cuisine, n'est pas reléguée à l'autre bout d'un appartement ou d'un sous-sol,
elle est très centrale
au cœur de la vie familiale.
Au cœur de la vie familiale. Et puis aussi, c'est les cuisines d'été autour des piscines, par exemple. Ça, André, évidemment, elle ne connaît pas. Et puis, l'utilisation des congélateurs. Elle n'a jamais connu ça.
Alors, écoutez bien. Du lait, de la glace, de la sauce rouge et tout le reste passe.
Voilà.
Écrit André à sa sœur en se moquant gentiment des habitudes alimentaires de la maison. La sauce rouge, vous voyez de quoi je veux parler ou pas?
Un peu.
Le ketchup.
Ouais, le ketchup qui était un truc, j'imagine,
inconnu en France. Oui,
cette sauce acidulée à base de tomates et de vinaigre, évidemment, et d'épices, bien sûr.
D'épices.
La glace, grande culture de l'ice cream.
Voilà, grande culture de l'ice cream que André ne connaissait pas du tout. Donc elle a dû trouver ça bien pratique, mais enfin bon, elle avait envie de faire aussi d'autres desserts.
Une évocation justement dans votre roman Valérie Pathureau de Yanis Porte, Le fief des Kennedy, dans le Massachusetts.
Les premières lettres postées de Yanis, adressées aux Rogers, témoignent de journées tellement fatigantes que je m'endors comme un bébé. Lorsque son réveil sonne à 6 heures, madame est déjà en route pour assister à la première messe. Au cœur de l'été, la maison sur la plage est pleine et les deux cuisinières travaillent 6 jours sur 7. Le rythme à la cuisine ne fait que répondre à celui de la famille qui, jour après jour, organise des activités, propose des sorties, excursions ou parties autour de la piscine.
Chère Kathleen, comment avez-vous interprété culinairement cette ambiance qu'on imagine qui effectivement fait rêver ?
Surtout en me basant sur les produits locaux, en fait, ce qu'on trouve beaucoup sur Cape Cod. Cape Cod, il faut savoir, c'est une petite presqu'île, en fait, qui est à côté de Boston, mais lieu de villégiature très, très chic. Et effectivement, on trouve des huîtres, du crabe, du homard, enfin, vraiment sublime, je tiens à le dire, parce que franchement, c'est une qualité exceptionnelle. Et donc, je me suis basée là-dessus. Mm-hmm. Et comme, effectivement, Valérie ou André le racontent très, très bien dans le roman, il y avait du monde tout le temps. Donc, en fait, faire des vrais repas, entrée, plat, dessert, assis autour d'une table, c'était juste plus possible en fait. Donc ce qu'elle faisait, c'était préparer des montagnes, comme elle dit, de sandwich.
Ouais.
Donc toutes sortes de sandwich, egg salad, tuna salad et crab salad, qui est un petit peu l'ancêtre, on va dire, du lobster roll d'aujourd'hui. Donc c'est ce que je vous ai préparé.
Wow.
Sur une belle brioche bien beurrée, bien dorée.
On imagine, là on replonge carrément dans l'ambiance de Cape Cod avec ce sandwich qui fait drôlement envie. Justine, un commentaire.
C'est délicieux.
On a un morceau de brioche ouvert en deux et garni. En fait, c'est très, très frais. Des petits cornichons, échalotes, un petit peu de céleri, de radis.
D'oignon rouge, bravo.
Il y a de l'aneth aussi, un peu, non ?
Aneth. Dans la sauce, il y a beaucoup d'aneth.
Bon. Et cette chair de crabe, peut-être ?
Oui, ouais. Le crabe, exactement. Oui. Crabe, chair et pâte. Voilà, donc effectivement, tout ça s'est mélangé avec une sauce assez légère, en fait. C'est à base de mayonnaise bien citronnée. Et puis, je rajoute un peu de yaourt à la grecque. Mm-hmm. À mon avis, elle mettait du sour cream. Ou alors, on peut mettre du lait ribot. Enfin, on peut mettre du lait fermenté, du buttermilk dedans aussi, pour l'alléger, en fait. Et tout ça avec plein d'herbes, de citron. Et donc, effectivement, elle faisait des montagnes de sandwichs. Et à boire avec ça, c'est ça ce qui me faisait le plus rire, parce que c'est tellement vrai, c'était des pichets de lait, en fait.
Ah bon ?
Hors de question de boire des bières et des cocktails en plein après-midi, parce qu'il faisait chaud, il faisait du sport toute la journée, donc on boit du lait.
Je ne sais pas si elle le racontait elle-même ou c'est...
Elle était
étonnée par cette omniprésence
du lait.
Ouais.
Si j'avais servi du lait dans mon petit café, on m'aurait emmenée chez les fous à Vatréa. Et elle ajoute, et Léopold aurait conduit lui-même le fourgon. Voilà.
Qu'est-ce qu'il est bon, sandwich, bravo.
C'est délicieux, oui.
Quel crabe vous utilisez, Kathleen ?
Moi, alors, j'ai pris un crabe qui était déjà décortiqué, en fait, parce que je vous aime beaucoup, mais là, je n'avais pas trop le temps, là, ce matin. Chair et pâte, d'une bonne qualité, en fait.
Mais on a même le droit d'utiliser du crabe en conserve ou en boîte,
peut-être ? Oui, il y en a du très bon. Alors, c'est assez coûteux, il faut le savoir, voilà, mais il faut émettre le prix, parce qu'autrement, c'est mélangé avec des tas de choses, du sucre, enfin voilà.
On est chez les Kennedy. Hein.
Ouais. Donc voilà, on ne compte plus, c'est comme ça.
Par contre, Kathleen, vous n'avez pas osé apporter les pichets de lait.
Non, je n'ai pas pris les pichets de lait.
Mais Valérie Pathureau, il y a évidemment cette manière assez décontractée de manger des sandwichs, et André se fond dans le paysage, s'adapte tout à fait à ses mœurs. Pour autant, Dans certains passages, elle fait aussi des vrais plats français.
Voilà, elle propose.
Elle tient même compte des préférences des uns et des autres. Mm-hmm. Le gratin de fruits de mer.
Le fruit de mer du président. Et puis le président aimait beaucoup les criques de pommes de terre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose.
Là, on parle d'une galette.
Vraiment
hein.
Simple, une petite galette de pommes de terre qui baigne normalement dans l'huile d'olive. Et il adorait ça. Alors, il faut quand même savoir que Rose était très, très à cheval sur ce que la famille mangeait. Hein. Elle voulait que tout le monde ait une ligne.
Ah, ça rigolait pas avec elle.
Ça rigolait pas du tout. Donc, elle était très, très stricte là-dessus. Pour le plus grand malheur de son dernier fils, d'ailleurs, Ted, qui était un petit peu boulimique et qui réussissait toujours un peu moins bien que les frères. Lui, il était toujours affamé. Donc, il se réfugiait dans les cuisines d'André pour se faire gâter.
Combien de temps au service des Kennedy ?
Une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années, quand même.
Une vingtaine d'années.
Incroyable.
Oui.
Comment la gastronomie française a son rond de serviette à la Maison Blanche? On en parle avec notre historien de la gastronomie.
France Inter.
Nous ne sommes pas historiens, mais nous aimons les bonnes histoires, même si elles sont inventées.
On va déguster.
La gastronomie française a fait rêver quelques présidents américains au point que on pouvait manger très souvent français à la Maison Blanche.
Absolument, mais en même temps, c'est une relation assez ambiguë. La cuisine française a une image de haute cuisine. Aux États-Unis, historiquement, et d'ailleurs, la présence d'une cuisinière française chez les Kennedy, c'est pas un hasard aussi. Hein, on est quand même d'une sorte d'aristocratie. Mmh. En 1982, il y a un livre qui s'appelait « Real men don't eat quiche ». Les vrais hommes ne mangent pas de quiche. Et c'était une satire de masculinité qu'on dirait toxique aujourd'hui. Mmh. Et c'est pas un hasard. Parce qu'en fait, il y a une histoire longue, même en Angleterre au XVIIIe siècle, de cette perception de la cuisine française trop sophistiquée, trop efféminé. Donc il y a cette attraction-répulsion. Et on le retrouve au sein de l'histoire de la cuisine française à la Maison Blanche.
Donc ambivalence.
Ambivalence évidente. On pourrait presque dire dès les pères fondateurs. George Washington, qui soignait quand même sa table. Là, on a l'image de la cuisine de Virginie, on va dire, à sa table. Je simplifie un peu parce qu'il a quand même eu lui aussi un cuisinier français à son service à la toute fin de son deuxième mandat. Et puis on a le francophile, celui qui est fasciné par la cuisine française, Thomas Jefferson, tout début du 19e siècle, 1801-1809, ses deux mandats. Lui, il a été ambassadeur en France à la fin de l'Ancien Régime. Il est revenu avec des ustensiles de cuisine française, avec tout un tas de produits qu'il a introduits aux États-Unis, du fromage, des anchois, du vinaigre, des pâtes, de l'huile d'olive et 700 bouteilles de vin. Donc lui, c'est un amoureux de la cuisine française.
Mais Loïc, est-ce qu'il est courant justement de trouver des cuisiniers ou des cuisinières français qui travaillent à la Maison Blanche ?
Alors tout à fait. Et ce qu'un historien américain a montré, il s'appelle Adrian Miller, c'est qu'il y a finalement une rivalité durable, pour reprendre ces termes, entre des cuisiniers afro-américains et des cuisiniers français au sein de la Maison Blanche. C'est quelque chose qui traverse l'histoire de la présidence américaine. Ça commence là aussi avec Washington. Il y a un esclave de Washington qui s'appelle Hercule, qui est son cuisinier attitré. Et comme ça, on trouve tout au long du 19e siècle, et encore Truman, qui avait par exemple une certaine Vieta Garr, qui était sa cuisinière privée, qui s'est retrouvée sa cuisinière à la Maison Blanche. Mm-hmm. Et en face, on a des cuisiniers français. On a Honoré Julien, qui a été le cuisinier de Jefferson. On a un certain Alexandre Fortin,
oui,
qui a été le cuisinier de Chester Arthur. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Et on voit que, par exemple, pour les grands repas, on estimait qu'il fallait un cuisinier français. Je cite là un article qui explique comment Chester Arthur voyait les choses. Le président, dans l'article de l'époque, reconnaissait également qu'un cuisinier français est indispensable pour les grands dîners. Un cuisinier virginien à l'ancienne est tout à fait suffisant pour le quotidien et à bien des égards imbattable. Mais seul un français est capable de concevoir la variété et l'ornementation élaborée requise lors des occasions officielles. On est là en 1884.
Mm-mm.
Donc, je pourrais comme ça multiplier les exemples de cette présence de chefs français d'un côté, de chefs et de cuisinières, notamment afro-américaines. Lorsqu'on arrive à l'époque des Kennedy, la balance penche clairement du côté des Français, puisque pour la première fois, avec Jackie Kennedy, parce que c'est les femmes qui choisissent d'une certaine façon, et ça, c'est une tradition, je pense, toujours en vigueur, qui choisit un certain René Verdon, un Français qui exerce à New York dans un restaurant français, et qui lui confère le titre officiel pour la première fois d'executive chef. C'est un titre qui est toujours en vigueur aujourd'hui.
Concrètement, quel type de cuisine française pouvait être servie à la Maison Blanche, Loïc ?
Si je reprends l'exemple de René Verdon, on voit par exemple que le premier, là on est vraiment dans la haute cuisine, le premier dîner d'État qu'il a préparé, donc c'est pour le Premier ministre britannique. Il propose ce qu'il appelle un désir d'avril en dessert, des meringues aux framboises et au chocolat, qui fait suite à truite au chablis à la sauce Vincent et un filet de bœuf au jus accompagné de cœur d'artichaut. Oh. Donc encore une fois, une histoire longue où cette cuisine française est présente à la Maison Blanche et où il y a parfois certaines résistances. Et quand Donald Trump propose finalement du fast-food à des équipes de sport, alors évidemment c'est du Donald Trump, c'est dans l'excès, mais au fond, il s'inscrit dans cette histoire d'une volonté de marquer les goûts simples du président, des goûts vraiment américains, face à une sophistication qui pose toujours un peu problème dans l'opinion publique américaine.
Mais qui a quand même eu une vraie tradition à la Maison-Blanche.
Absolument.
Hein, cette espèce de cuisine, de haute cuisine honorifique.
Absolument. Celle qu'on préférait historiquement pour les dîners d'État.
Très intéressant. Merci beaucoup, Loïc Bienassi. Vous évoquez une rencontre, oui. Valérie Pattureau, dans votre roman, entre André et René Verdon, que vous évoquiez à l'instant, Loïc Bienassi, qui fut le cuisinier du couple Kennedy accédant à la Maison-Blanche.
Alors j'aime à penser qu'elle a existé.
Ah, c'est pas sûr.
Je ne suis pas certaine qu'elle ait existé. Mais par contre, André est allé, oui, à la Maison-Blanche. Et elle a surtout eu l'autorisation de venir lorsqu'il y a eu ce grand repas pour le général de Gaulle. Donc oui, j'ai aimé imaginer cette rencontre, en tout cas.
Tout à fait plausible, oui.
Allez, on finit par une petite touche sucrée. On atterrit en douceur avec une autre lecture, si vous le voulez bien.
Les plats commandés ne posent guère de difficultés à André. Les goûts de la famille sont simples et peu variés. Des salades de toutes sortes, du bœuf et du poulet au barbecue. Domaine et cuisson réservés à Monsieur Joe et à son fils Bobby. Des fruits et des glaces, sans oublier le gâteau, souvenir de leur enfance, le gâteau au chocolat. Le fameux Boston Cream Pie. Une génoise, nappée d'une épaisse couche de crème au chocolat et fourrée de crème pâtissière, ou sa variante, recouverte de chocolat glacé.
Et Kathleen Clarity, dans votre livre de recettes, inspiré de la cuisinière des Kennedy aux éditions Solar, vous n'avez pas loupé l'occasion d'évoquer ce fameux Boston Cream Pie, que Justine n'a pas quasiment fini. Non, non, c'est bien. Ça veut dire qu'il est bon.
Ça me fait plaisir, je suis d'aller en face de moi.
Alors, c'est vrai, Kathleen, que c'est un peu un faux ami. Oui. Boston Cream Pie, oui, il ne s'agit pas vraiment d'une tarte.
Non, ce n'est pas du tout une pie qui a été créée en 1856 par un pâtissier français. Tiens, encore eux, là, ils sont toujours là. Et en fait, il n'avait pas de moule à gâteau, il n'avait que des pie tins. En fait, il n'avait que des moules à tarte. Donc, il a fait ses génoises dans deux moules à tarte, il a assemblé tout ça et c'est devenu le Boston Cream Pie.
Loïc Bienassi est un mec sucré invétéré.
J'aime beaucoup qu'il y ait un genre de glaçage. Donc moi, ça me va très bien. Et puis, c'est une crème pâtissière, mais très légère, je trouve. Là, elle est...
Oui, je l'ai un peu frenchisée, quoi, on va dire. Hein, voilà.
Mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas très très loin de la tarte tropézienne, quoi?
Oui, c'est vrai.
À l'œil, ça y fait penser.
Oui. C'est une génoise ou un type sponge cake, c'est ce qu'on appelle un sponge cake. Après, c'est une pâtissière, mais que j'ai allégée avec une crème montée, parce que je préfère.
C'est vrai que c'est ça qui est agréable dans le gâteau et qu'on retrouvait sur le sandwich avant, c'est qu'on s'imagine en entendant comme ça que ça va être assez riche, généreux. Et je trouve qu'il y a cette touche légère, on le finit facilement avec plaisir.
Oui, vous en voulez une autre part
Je n'ai pas dit ça, mais maintenant que vous proposez.
On va se quitter sur ce Boston Cream Pie qui est absolument merveilleux. En un mot, la fin d'André, entre guillemets, il y a évidemment la fin de sa collaboration avec les Kennedy.
Bien sûr,
et il y a à la clé un retour en France.
Un retour en France, mais ça ne veut pas dire la fin de l'histoire avec les Kennedy, puisque les enfants Kennedy sont venus la visiter dans son petit village de la Drôme. Et ça, c'est quand même incroyable. Et puis toujours une communication avec Rose, qui n'a jamais manqué ni un anniversaire, ni un jour de l'an, pour souhaiter ses vœux à André.
Donc, mais c'est un conte de fées.
Un conte de fées.
Et elle est décédée à un âge assez avancé.
Très avancé, oui, oui, 90 ans, plus de 90 ans. Incroyable, elle a vécu tout le XXe siècle.
Merci pour cette savoureux récit de vie absolument incroyable. Valérie Pattureau, En poche, la cuisinière des Kennedy, qui est sortie il y a quelques mois chez Pocket pour vivre ce destin absolument exceptionnel. Je précise aussi, Valérie Pattureau, que votre nouveau roman, L'Enseveli, est disponible toujours aux éditions
Tout
Les Escales.
Aux éditions Les Escales, voilà.
La cuisinière des Kennedy, le carnet de recettes, un livre de recettes par Kathleen Clarity, inspiré du roman de Valérie Pattureau aux éditions Solar. Et vous nous avez offert la preuve brillante que On mangeait bien à la fois du côté de la France, mais également aux États-Unis avec des recettes très réussies. Un grand merci, Kathleen, pour votre générosité.
Merci, merci à vous.
Merci, Kathleen.
La semaine prochaine, salade de printemps, on cultive et on cuisine les jeunes pousses avec notre pote du potager, Xavier Mathias, et l'autrice culinaire, Barbara Guichetot. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.